Le titre s'appelle L'économe fidèle. Et peut-être vous pouvez lire avant d'écouter ce sermon, le Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Je vais simplement mentionner ce passage, mais l'idée est là que je voudrais exprimer ce matin. Il y a 3 semaines, nous avons étudié ici à Lyon un sermon qui suit le texte de Luc chapitre 9, où Jésus parle de ce qu'il faut pour être un disciple. Et dans ce passage, nous avons trouvé que l'homme doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et suivre Jésus. Et bien sûr, c'est plus facile de suivre Jésus quand nous comprenons bien tout ce que Dieu a déjà fait afin que nous puissions avoir la vie éternelle. En voyant la miséricorde de Dieu, nous pouvons demander comment pouvons-nous donner moins que la soumission totale. Paul le décrit de cette façon dans Romains 12, le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nos corps comme un sacrifice vivant. Par définition, le sacrifice est une offrande rituelle de la vie d'une personne ou d'un animal. Et le mot vivant dans ce passage signifie que le sacrifice est une affaire quotidienne. Nous donnons tout ce que nous avons, nous donnons tout ce que nous sommes. En réalité, puisque nous sommes les créatures de Dieu et le monde est la création de Dieu, tout lui appartient. Il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y a rien qui est dehors de son autorité. Par exemple, dans le psaume 24, le verset 1, David écrit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Mais Dieu a mis des choses physiques sous l'autorité de l'homme. Dans le psaume 8, David dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Parce que Dieu nous a donné ses dons et cette responsabilité, nous devons les utiliser avec sagesse. Un mot dans la Bible pour ce genre de responsabilité est le mot économe. En grec, le mot économia nous donne le mot économie, dont nous avons le mot en français économe. L'économe est celui qui est responsable pour tous les domestiques de son maître, c'est-à-dire celui qui veille sur la maison de son maître. Nous voyons dans l'histoire des Juifs et aussi dans l'histoire des païens cette habitude d'avoir des économes. Joseph, le fils de Jacob, était d'abord l'économe de Potiphar dans Genèse chapitre 39. Plus tard, il était l'économe du Pharaon, ayant l'autorité sur tout le pays d'Égypte. Et nous sommes aussi des économes. Dieu nous a confié tout dans ce monde. Toute la charge pour le bon emploi de sa création tombe sur nous. Donc, comme des économes de Dieu, nous employons tout pour sa gloire, nos vies, nos talents, notre temps et nos effets matériels. Et selon la parabole de l'économe infidèle dans Matthieu 25, les versets 14 à 30, nous recevons notre récompense en rapport avec notre manière d'exécuter les responsabilités que Dieu nous avait donné. Si c'est bien et avec sagesse, nous serions dignes d'une récompense. Si c'est mal et avec folie, nous ne serions pas dignes. Dans la Bible, il y a 2 buts que nous devons accomplir avec ce que nous avons. D'abord, la chose la plus évidente, on doit tout simplement gagner sa propre vie. Il faut se soutenir. Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Et ensuite, on doit aider les autres. Certainement, les autres comprendraient nos propres familles. C'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et aussi les autres comprendraient ceux qui sont dans le besoin, soit une dame âgée ou un monsieur âgé dans le même immeuble, soit une famille dans un autre quartier, soit des victimes d'une inondation, d'une sécheresse, etc., etc. Donc la question la plus importante est, moi, qu'est-ce que je devrais donner? D'abord, au-dessus de tout, comme nous l'avons étudié dans le sermon de Luc chapitre 9, il y a 3 semaines, il faut que je donne moi-même. En parlant des chrétiens en Macédoine qui avaient donné libéralement pour aider leurs frères dans le besoin qui se trouvait en Judée, l'apôtre Paul dit dans les 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 5, il dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée, donnée eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Regardons ce que ces chrétiens ont fait. Même sérieusement éprouvés par les souffrances, ils ont donné libéralement avec joie. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que ce qu'ils pouvaient. En effet, Paul dit, ils nous ont demandé avec insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints en Judée dans le besoin à cause de la sécheresse. Et voilà pourquoi ils étaient si généreux. Le verset 5. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Comme dans le Romains chapitre 12, le verset 1, ils ont offert à Dieu leur propre corps comme un sacrifice vivant. Donner soi-même au Seigneur, c'est le résultat normal quand nous contemplons ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous partageons avec joie ce que nous avons parce que nous avons déjà participé dans l'amour de Dieu. Quelqu'un a dit, on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Cette abondance de l'amour se manifeste de plusieurs façons. Comme le chrétien en Macédoine, il peut s'exprimer par les dons de l'argent. On voit les autres exemples, par exemple, dans chapitre 4 et 5 des Actes des apôtres, où les chrétiens ont vendu leurs possessions pour que le frère puisse avoir les nécessités de la vie. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 1 à 2, Paul a encouragé les Corinthiens à donner leur argent pour les frères en Judée. Mais il faut se rendre compte que l'argent ne doit pas être donné seulement pour les besoins physiques. Nous donnons notre argent aussi pour aider le travail de l'Église, pour éliminer un peu la faim spirituelle de ce monde. Et voilà la raison principale pour laquelle nous faisons la collecte chaque dimanche. Mais je veux proposer 3 raisons pour lesquelles on ne donnerait pas. 3 raisons pour lesquelles on ne donnerait pas. Premièrement, il est erroné de donner pour mériter la grâce de Dieu, pour se justifier soi-même, pour dire que Dieu doit me sauver. Deuxièmement, il est erroné de donner pour apporter la gloire à soi-même. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 3, Jésus enseigne, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Il continue, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et troisièmement, il est erroné de donner avec tristesse et avec contrainte. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, Paul dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul avait écrit dans le chapitre 13, le verset 1 à 3, je pourrais être capable de parler la langue des hommes et celle des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don d'annoncer des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Et je lis ce passage de la Bonne Nouvelle aujourd'hui. J'ai remarqué que plus on a de l'amour, plus on est prêt à sacrifier, ou on peut dire à se sacrifier. Paul a cru que l'amour et l'action de donner vont ensemble. Il a même dit que nos dons sont la preuve de notre amour. En essayant d'encourager les Corinthiens à donner, il a écrit « Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour ». De Corinthiens chapitre 8, le verset 24. Et dans le chapitre 2, dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 11, il continue, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore abondance en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Qu'est-ce que Dieu veut, selon ce passage? Il veut que nous sommions en abondance. Pourquoi? Le verset 12. « Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, mais il est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Et voilà la raison principale. Il est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. On rend gloire à Dieu. Mais si nous avons cette disposition des chrétiens en Macédoine qui se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, nous allons donner beaucoup plus que notre argent. Nous allons donner toutes nos possessions en général. Nous serons prêts à aider n'importe qui, quoi qu'on soit le besoin. Peut-être faudra-t-il fournir les vêtements, la nourriture, le logement, etc., etc. N'importe quel besoin. Selon le Nouveau Testament, les chrétiens sont responsables pour les besoins de tout homme. Et dans les livres des Actes et des Épîtres, il est évident que les premiers chrétiens étaient pleinement conscients des besoins de leurs frères et de leurs sœurs en Christ. Et quand nous donnons, Jésus promet que nous serons bien soignés. En effet, nous serons dans l'abondance, physiquement et spirituellement. Jésus dit dans Luc chapitre 6, le verset 38, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué et qui déborde. » Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Croyez-vous cela? Est-ce que nous sommes les bons économes de Dieu? Est-ce que nous sommes les bons économes de tout ce que Dieu nous a donné? Si nous sommes comme les économes de Dieu, il y a une autre tâche dont nous devons nous occuper. C'est-à-dire, il faut partager notre connaissance de Jésus-Christ. C'est le meilleur don que nous puissions donner à notre âme. Il est inutile de donner la nourriture physique en négligeant de partager la nourriture qui peut donner la vie spirituelle, la vraie vie. Jésus dit, « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie ?» Marc chapitre 8, verset 36. Donc, il faut partager la bonne nouvelle. Le vrai amour exige de faire de notre mieux. Et il n'y a rien de plus grand que nous puissions donner que la connaissance de Dieu et le don du salut en Jésus-Christ. Amen.
Regardez l'autre cassette. Après, j'ai fini la première cassette que j'ai encore de la place pour mettre plus que j'ai pensé. Donc, je vais vous donner une autre étude que je vais présenter dans quelques jours. Ce n'est pas encore corrigé le français. Et je vais le présenter très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de place. C'est une étude sur le sang de Jésus. Je crois que c'est primordial de comprendre et de répéter souvent que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous ne sommes sauvés ni par notre foi seule, ni par notre repentance, ni par notre baptême en nous-mêmes. Les trois ensemble qui constituent bien sûr notre obéissance nous mettent où Dieu nous voudrait pour nous laver de nos péchés par le sang de son Fils unique. Nous n'avons donc aucun mérite en nous-mêmes. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Pour moi, l'idée de verser du sang est horrible, c'est dégoûtant. Comme dans les sacrifices de l'Ancien Testament, dégorger un animal et de voir le sang se lancer contre l'autel me rend malade. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour rappeler à l'homme que le pardon des péchés n'est pas quelque chose de banal. Il rappelle la gravité du péché. Une vie innocente est sacrifiée pour achever le pardon d'un humain égoïste et impur. Le sang versé était une réprimande incessante pour la tendance du pécheur d'attacher peu d'importance à la gravité de son péché. C'était un rappel de ne pas oublier ou de faire peu de cas ou de mépriser la gravité de son péché. Une victime innocente devait être tuée pour qu'un homme soit purifié. Il fallait choquer le pécheur insensible. Et certainement, la croix de Jésus est suprêmement efficace pour le faire. Voici ce que Dieu en pense du péché. Et voici ce que le péché a fait. Il a crucifié le Fils de Dieu. Le sacrifice sanglant de Jésus nous dit que Dieu lui-même a fait un sacrifice pour nous. Le sang pour Dieu représente la vie. Dans un sens, on peut dire qu'il représente l'âme. Dès le commencement, Dieu a demandé le sang des animaux. On offrait à Dieu la vie elle-même. Mais selon l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, le sang des animaux était efficace dans un sens limité. C'est-à-dire qu'il fallait le répéter pour chaque nouveau péché, chapitre 9 surtout. Pour avoir le pardon complet, éternel et continuel, il fallait quelque chose de plus grand. Il fallait la vie, le sang de l'homme lui-même. Mais Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils à notre place. En Romains chapitre 5, les versets 6 à 9, nous lisons, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 14 continue avec la même idée et souligne le fait que le sang de Jésus valait plus que le sang des animaux. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Mais la question se pose, pourquoi avons-nous besoin d'être purifiés de nos péchés? La raison, c'est que Dieu est saint et pur et qu'il ne supporte pas l'iniquité et l'impureté. Le prophète Habacuc, en posant la question à Dieu, pourquoi permet-il que son peuple souffre à cause de leurs ennemis, affirme ceci. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. C'est le chapitre 1, le verset 13.
Que Dieu ne supporte pas toujours le péché, et on a de regarder seulement Genèse chapitre 6, les versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Si Dieu ne supporte pas toujours nos péchés, qu'est-ce qu'il veut? Pour Israël, et c'est la même chose pour nous, il a dit à travers le prophète Ézéchiel, dans chapitre 18, les versets 31 et 32, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Que l'homme est pécheur, il n'y a pas de question. L'apôtre Paul dit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Romains 3, le verset 10. Plus loin, il dit dans le verset 23, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le résultat est toujours le même. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Soit la mort physique, soit la mort spirituelle. Elle peut être tous les deux, mais elle est toujours la deuxième lorsqu'on vit dans un état de rébellion contre Dieu. Mais l'homme peut devenir pur et saint comme Dieu. Paul dit qu'en nous délivrant de l'esclavage au péché, Christ nous donne pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, le verset 22. Mais par quel moyen? Par le moyen de son sang. Ésaïe décrit en détail comment Jésus a souffert dans notre place, chapitre 53, comment il est mort pour nos iniquités, pour nos transgressions et qu'il a porté nos souffrances. Il a même dit à la dernière Pâque, en parlant de la coupe, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, le verset 28. Il faut aussi comprendre que Jésus n'a pas mérité la mort. Il l'a choisi pour nous sauver. Jésus dit, en parlant de sa vie, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. » Jean 10, le verset 18. Hébreux chapitre 4, le verset 15, dit que Jésus était tenté, mais sans faire du péché. Et l'apôtre Paul ajoute, « Celui qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Jésus, qui était pur et saint, a pris nos souillures sur lui-même pour que nous puissions avoir la sainteté et pour que nous devenions nous-mêmes l'exemple parfait de la justice de Dieu. Paul dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Éphésiens 2, le verset 13. Mais à quel moment est-ce qu'on touche ce sang pour être purifié? On le touche au moment de la mort de Jésus. Mais comment est-ce qu'il faut passer par les siècles jusqu'à il y a 2000 ans pour toucher ce sang? Son sang a coulé lors de sa crucifixion. Dans sa mort, son sang a été versé. L'apôtre Jean dit, s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Jean 19, le verset 33 à 34. L'apôtre Paul dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Romains 6, le verset 3. Au moment de notre baptême, nous sommes morts au vieil homme et nous sommes morts avec Christ sur la croix, comme nous étions là avec lui il y a 2000 ans. Romains 6, le verset 6. À ce moment-là, nous étions couverts du sang de Christ et lavés. Pour être lavé, il faut se rendre où se trouve le sang, il faut le contacter, sinon on est toujours impur. C'est comme une vaccination contre une variole, disons le poliomyélite. Pour profiter des bons résultats, il faut avoir la vaccination. Une fois reçu,
Le sang est efficace perpétuellement, continuellement, éternellement. Ce n'est pas comme le sang des animaux. Le sang de Jésus continue de nous laver à la condition, et je dis bien à la condition, que nous continuons de suivre Jésus fidèlement. Jean dit, mais si, une condition, nous, les chrétiens, marchons dans la lumière comme il, Dieu, et lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Nous sommes comme des nouvelles personnes. Nous commençons une nouvelle vie, sainte et pure. Paul dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, le verset 4. Est-ce qu'il faut donc être baptisé pour être sauvé? Ou comme certains demandent, et comme quelqu'un demandait il y a 3-4 semaines, est-ce qu'on peut être sauvé sans le baptême? La réponse est, si on veut bénéficier du sang de Jésus qu'il a versé pour nous, à notre place, dans sa mort, il le faut. Comment est-ce qu'on est vacciné contre une variole sans le vaccin? C'est impossible. Pourquoi éviter donc la vaccination contre le péché dans le sang de Jésus? L'orgueil peut-être, ou la fausse doctrine, je ne sais pas. Mais une fois morte avec Christ dans le baptême et lavée par son sang de nos péchés, nous sommes ressuscités avec lui à une nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau, Jean chapitre 3, verset 5. Et comme Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. C'est vrai, n'est-ce pas, que Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. L'apôtre Pierre dit, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 2. Pourquoi? Il continue, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » 1 Pierre 2, le verset 2 à 6. Une fois né donc, il faut croître. Et cette croissance produit le bon résultat. D'abord, à notre naissance, nous devenons membres du corps de Jésus. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 1, les versets 18 et 24, que ce corps est l'Église. Nous sommes l'Église. En même temps, nous devenons une nouvelle créature. Peut-être nous avons commis un tas de péchés, mais cette vieille âme est morte avec ses péchés. Dieu l'a fait un nouveau homme. Tous ses péchés sont pardonnés et oublié par Dieu à travers le sang de Jésus, selon la promesse de la prophétie dans Jérémie chapitre 31, les versets 31 à 34. Paul dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Et je voudrais vous suggérer seulement quatre de ces bénédictions. Premièrement, nous avons le droit de prier avec la promesse d'avoir une réponse. Et avec cette promesse, nous avons la promesse de l'aide du Saint-Esprit. De même, dit Paul, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, les versets 26 à 27. De plus, nous avons le droit d'appeler Dieu notre Père. Avant, comme Jésus dit aux Juifs, nous étions des enfants du diable parce que nous avons fait ses œuvres. Paul dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, les versets 15 et 16. Troisièmement, nous avons l'espérance d'une vie nouvelle et éternelle, l'espérance de la paix maintenant à l'intérieur et avec Dieu, l'espérance de la paix avec l'homme. Et quatrièmement, nous avons un sauveur. Ce n'est pas une nouvelle idée cela, mais je voudrais vous rappeler que le christianisme est la seule religion d'avoir un sauveur et donc la seule religion valable. Les autres ont le prophète, même le Messie. Mais rien d'autre à un sauveur qui est mort pour sauver l'homme. Surtout, il ne croit pas que Dieu est mort pour pardonner l'homme. Les musulmans, ils ont le prophète. Les hindous, le Brahma, le Vishnu ou Siva. Les bouddhistes, ils ont le Bouddha. Les monistes de nos jours ont le Moon. Et les témoins de Jéhovah, ils ont le ange déifié, etc., etc., etc. Mais nous avons Jésus-Christ, nommé Jésus parce que c'est lui qui a sauvé son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Et il l'a fait par son sang. Le sang donc, aux premières pensées, n'est pas bon. Et du même côté, il ne le sera jamais. Mais de notre côté, il représente la victoire. Dans sa mort, Jésus a vaincu le diable et la mort. Son sang versé a arraché du diable les âmes dans l'asservissement du péché. Satan semblait gagner. Le Fils de Dieu est mort. Mais le Fils de Dieu est ressuscité aussi. Et à cause du fait qu'il est ressuscité, au moment que nous soumettons à lui dans le baptême, son sang nous donne la victoire aussi. En Christ, et par son sang, nous commençons immédiatement de la vie éternelle. La mort n'a plus de règne sur nous. La mort physique et donc la peur de la mort n'est rien, je répète. La mort physique devient seulement la porte au ciel. Et je termine en disant tout simplement que Dieu soit loué. Amen.